Radio Kapi.
Le journal Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Encore des vies humaines dans une embarcation emportée dans les eaux. Dans une scène pathétique, on voit un bateau chavirer aux alentours des 10 heures dans le lac Kivu au grand désarroi des pêcheurs et autres spectateurs désemparés. Cause, bilan provisoire et réaction, c'est sous peu en ouverture de ce journal. Aligné également dans cette édition, cette nouvelle intéressante pour les conducteurs, il s'agit de la baisse du prix de carburant à l'initiative du ministère de l'économie. Tenez, le litre de l'essence à la pompe passe de 3340 à 2990 francs congolais dans la partie ouest du pays. Notre invité, Dr Foreman Mabala, parle couverture santé universelle dans son volet anesthésie et réanimation. C'est en marge de la troisième édition du Carrefour international des anesthésistes réanimateurs des urgences tenues à Lubumbashi. Radio Capi, toujours à votre service de l'information pour ainsi honorer votre choix et confiance soutenue à cette chaîne des collègues des divers faits d'actualité. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous depuis vos provinces respectives. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le naufrage du bateau Merdi ce jeudi sur le lac Kivu matin a fait de nombreuses victimes en vie humaine et dégâts matériels importants. Cette embarcation en provenance de Minova dans le territoire de Kalehe au sud Kivu a chaviré près du quai d'accostage du port de Kituku dans la ville de Goma. Elle transportait des centaines de passagers et de marchandises. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Denise Lukeso s'est rendu sur place au port et nous propose ce reportage.
Les cris de pleurs par-ci et par-là, c'est vraiment le choc. L'émotion et la tristesse étaient grands au port de Kituku ce jeudi, jour du marché. C'est le deuil dans la ville de Goma et à Minova au sud Kivu. Cet incident s'est produit le jeudi 3 octobre 2024, alors que les bateaux tentaient d'accoster, chargés de plusieurs passagers et de marchandises. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les bateaux auraient rencontré des difficultés dans les eaux agitées, ayant conduit à ces naufrages meurtriers, comme le témoigne cet habitant qui était à bord d'un autre bateau.
J'étais à bord d'un autre bateau, à 50 mètres du bateau qui a chaviré. Il y avait une forte vague. Le bateau a commencé à se pencher, à s'agiter, et enfin à sombrer directement et complètement avec tous les passagers. Certains passagers courageux ont commencé à nager sur les lacs, mais 90% des passagers ont péri.
Il est difficile pour l'instant d'évaluer les bilans humains à ce stade, car les opérations de recherche et de secours se poursuivent. Mais plusieurs sources parlent d'un bilan lourd. Cet accident soulève de nouveau des inquiétudes quant à la sécurité maritime sur les lacs Kivu, rappelant qu'aucun bilan officiel de ces tragiques accidents n'est disponible pour l'instant. Pendant ce temps, les rescapés continuent à être évacués dans des hôpitaux et les corps des victimes sont gardés dans les différentes morgues de la ville en attendant leur identification. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Inquiétude suscitée, nous parlons d'abord de la société civile de Bouzia Minova au sud Kivu, qui se dit préoccupée par ce désastre qui a fait de nombreuses victimes parmi les passagers et les membres de l'équipage. Elle demande aux gouvernements provinciaux du nord et sud Kivu à pouvoir veiller à l'application des mesures d'embarcation des personnes. Juge Sadiki est joint par Denise Lukeso.
Nous invitons les gouvernements provinciaux, que ce soit du Nord Kivu, du Sud Kivu, à pouvoir veiller à l'application des mesures d'embarcation, aux mesures de transport des personnes et des biens, mais aussi que les services habilités commis au niveau des ports puissent jouer réellement leur rôle. Parce qu'hier, mercredi, c'était une pirogue en provenance de Mukwija qui a fait naufrage à Mabula, et aujourd'hui c'est le bateau Merdi, et demain on peut assister à un autre drame, raison pour laquelle nous invitons les autorités à prendre plus de mesures conservatoires pour la protection de la population et de leurs biens. Nous demandons à la même occasion au président de la République d'accomplir la promesse tenue à Mukwija. En avril 2019, il y a eu un naufrage. 4 bateaux promis à la population de Kalehe ne sont pas encore arrivés, et si ces bateaux étaient arrivés, peut-être on aurait limité les dégâts.
Signalons que, à la suite de ce naufrage, les opérations de secours pour tenter de retrouver des éventuels survivants se sont poursuivies jusqu'en fin d'après-midi de ce jeudi à Goma. Les autorités provinciales ont mobilisé tous les services médicaux de base ainsi que d'autres structures médicales de la place pour apporter leur assistance aux victimes. Ambulances, corbillards et autres moyens privés des particuliers étaient engagés dans l'évacuation des passagers rescapés et des dépouilles des personnes naufragées dans les hôpitaux et dans les différentes morgues de la ville. Rappelons que le le bilan de ce naufrage, comme on venait de le dire, n'est pas encore disponible. Nous restons toujours dans la province du Nord Kivu pour parler haute, cette fois-ci de l'insécurité dans la ville de Goma. Une femme a été tuée par balle dans la nuit de ce mercredi à jeudi par des bandits armés non autrement identifiés au quartier Keshero. Nous sommes là dans la commune de Goma. Selon nos sources, cet incident malheureux s'est déroulé vers 20h30, heure locale, lorsque les hommes armés ont fait incursion dans sa résidence non loin de l'hôpital Sebekan Docho. Cette veuve vient d'être assassinée une année après que son mari, un notable de la région, soit aussi assassiné à Goma dans sa résidence. Cet énième incident vient plonger la population de Goma dans la psychose face à cette violence aveugle qui s'observe actuellement dans la ville. Nous en sommes maintenant au deuxième titre de ce journal, la nouvelle enthousiaste pour les conducteurs. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Moukoko Samba, a signé ce mercredi un arrêté revisant à la baisse les prix des produits pétroliers en RDC. Conformément à cet arrêté qui entre en vigueur ce jeudi, le prix du litre de carburant à la pompe passe de 3340 à 2990 francs congolais dans la partie ouest du pays, alors que le gazole se négocie à 2979 francs congolais au lieu de 3435 francs comme d'habitude. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Le gouvernement assure suivre de près l'évolution des cours du pétrole sur les marchés mondiaux et d'y être déterminé à préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Dans un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Capi, le ministre de l'économie nationale affirme que les réformes entamées dans les secteurs de la distribution des produits pétroliers se poursuivront avec pour objectif de maintenir une dynamique de baisse sur les marchés des biens. Pour assurer un approvisionnement régulier du pays en produits pétroliers, Daniel Moukoko Samba indique avoir commencé à rembourser les manques à gagner supportés par les opérateurs de la filière, tout en veillant à ce que cet effort financier n'alourdisse pas les trésors publics. Dans les mêmes communiqués, il annonce également une baisse prochaine des prix des 8 biens de grande consommation à la suite de la signature récente par la première ministre du décret portant sur les mesures urgentes de lutte contre la vie chère. Parmi ces produits figurent les viandes, les volailles surgelées, les poissons surgelés et salés, les laits en poudre, les riz, les maïs et les sucres.
Autre actualité économique, rareté du ciment gris sur le marché à Kinshasa. À travers la capitale, presque tous les dépôts sont vides, les stocks sont aussi quasi épuisés, se plaignent les vendeurs grossistes et détaillants, ainsi que les constructeurs contactés par Radio Capi. C'est l'une des conséquences directes du mouvement de grève de l'association des transporteurs poids lourds de Kinshasa et du Congo central. Du coup, c'est la spéculation sur le prix pour ceux qui ont encore un petit stock. Le sac de ciment gris se négocie entre 45 000 francs et 55 000 francs, voire même plus. La situation concerne également d'autres produits, notamment les vivres frais et autres produits manufacturés en provenance de l'extérieur via le Congo central. Jean-Désiré Kanyama pour le reportage.
Pour cet opérateur de commerce du ciment exerçant dans la commune de Mungafula, cette grève est en train de paralyser les tissus économiques de Kinshasa. Nestor Maroy.
Tous les dépôts aujourd'hui de ciment sont vides et les ciments, on ne les retrouve presque pas si on les cherche. C'est tous les tissus économiques et les paniers de la ménagère qui est en train d'être affectés, d'une part. Et d'autre part, les circuits de commerce de vente de vivres et matériaux de construction, outre les ciments, le fer à béton et autres, connaissent une montée spectaculaire à cause tout simplement de la rareté des produits.
C'est le ciment gris qui est le plus touché et les constructeurs s'en plaignent déjà. Gabriel Kwenge Nalulu.
En tout cas, ce matin, c'était très difficile. J'ai sillonné dans tous les dépôts à pompage. Il n'y avait même pas un sac de ciment. Je suis allé au niveau des grands dépositeurs Congo Fiti. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de ciment. Pas même un sac. Très difficile. Il n'y a pas moyen de travailler. Pas même de demi. 1-2 kilos, pas de ciment. Donc, il n'y a pas moyen de travailler.
D'autres produits sont touchés, y compris les vivres frais. Mireille Tchela exerce dans ce secteur.
Je suis dans le monde de vivre frais, ça se voit plus. Il y a les carences. Il y a les carences au marché. Il n'y a pas le vivre frais, il n'y a pas le cuisse de poulet. Donc, on vit difficilement au Congo.
La grève des gros transporteurs, faut signaler, étant décantée depuis hier mercredi, les habitants de Kinshasa espèrent que la situation va se stabiliser rapidement. Là, on lève la grève, ici on l'amorce. Grogne à la Sokimo. Les agents et cadres de cette société du portefeuille de l'État sont en grève depuis le week-end dernier, notamment à Kinshasa, dans la province de la Tchopo, à Nitouri et dans le Haut-Ouélé. Selon Roger Kakeng Katendevingi, deuxième vice-président de la délégation syndicale de la société minière de Kilomoto, ils sont plus de 2500 agents et cadres qui réclament la paix des arriérés des salaires de 118 mois. Le secrétaire général du syndicat Éco-Éveil de la conscience ouvrière affilié à cette entreprise dans une déclaration à la presse ce mardi à Kinshasa parle de ce qu'il qualifie de crime social à la Sokimon. Tout en réclamant l'audit par l'IGF, Arma Osase dénonce la signature des contrats qualifiés de léonais par les mandataires à leur propre avantage, des détournements et bradages des biens de cette société, ainsi que la mauvaise gestion. Des détails avec Jean-Désiré Kanyama une fois de plus.
Évoquant la situation qui prévaut à la Sokimo, le secrétaire général du syndicat Eco Éveil de la conscience ouvrière parle de la violation des instructions du chef de l'État en rapport avec le social des travailleurs en RDC. Armand Osase.
Il y a un crime social à la Sokimo. Les gens souffrent. Il y a des morts à cascade. Laisser la gestion de cette entreprise à l'actuelle direction générale, c'est vraiment déclarer la faillite de cette entreprise. Les mandataires, c'est faut payer des avantages. Mais les travailleurs croupissent dans la misère la plus noire. Mais les travailleurs demandent de la résiliation des contrats léonais signés par l'actuelle direction générale. Et en violation des dispositions des articles 56 de la Constitution et des lois du pays.
En plus d'autres mots à la base de la situation actuelle à Sokimo, le deuxième vice-président de la délégation syndicale dénonce un contrat qu'il qualifie de léonin, Roger Katende Vingi.
Et puis, pour résilier les contrats avec Sauter Énergie, un contrat qui hypothèque l'avenir de cette centrale. Et là, nous demandons à l'employeur comment tu peux signer un contrat de la sorte, surtout pour une société qui n'est même pas encore créée, plus grave encore. Désastreuse, nous demandons à l'IGF de venir auditer sa gestion.
Les mandataires mis en cause n'ont pas été joignables.
L'actualité nous amène dans la ville de Matadi au Congo central où les travaux d'urgence de la modernisation de la voie urbaine relancée depuis le 17 août de cette année se poursuivent sans entrave. Ces travaux financés par le gouvernement provincial et supervisés par le service technique de l'Office des voiries et drainage OVD visent à moderniser les infrastructures routières du chef-lieu du Congo central. Les habitants de Matadi qui saluent l'avancement de ces travaux ne jurent que par son achèvement. Nana plus richement bon nous en dit plus.
Ces travaux concernent deux axes, celui allant de la place 24 novembre jusqu'au couvent des sœurs, soit 300 mètres, et celui partant du rond-point Bouimoa à la place Coca-Cola, long de 380 mètres. Ils comprennent les bétonnages, l'assainissement et les réparations ponctuelles essentielles pour améliorer la qualité des routes de la ville de Matadi. Après des 15 jours de la fin comme initialement annoncé, les deux bandes de la bretelle rond-point Bouimoa Coca-Cola sont déjà presque finies. Maître Patintouzi qui supervise le déroulement de ces travaux les confirme.
Nous sommes déjà à plus de 80% des travaux. La population y passe chaque jour, il est en train de constater. Il comprend que la route lui sera remise dans les prochains 15 jours.
La population de Matadi se réjouit du déroulement rapide de ces travaux et tient à son achèvement avant la tombée des premières pluies.
Cette route était vraiment délabrée et ça causait trop d'embouteillages. Maintenant là, nous voyons que les travaux vont à pas de géant.
Notons que dans le cadre de la relance des développements durables de la province du Congo central, après la ville de Matadi, le chef de l'exécutif provincial a aussi lancé la réhabilitation des routes des dessertes agricoles à travers la province. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Un mot de sport avant de passer à la page internationale, vous l'avez suivi. Les Léopards U20 de la RDC viennent de remporter le tournoi de l'UNIFAC après leur victoire 2-1 en finale face au Diable Rouge du Congo-Brazzaville. Les deux buts ont été marqués par Tony Talassi qui a signé un doublé.
Actualité internationale.
La Russie envisage d'exempter plusieurs pays africains de visa. Des accords sur un régime sans visa sont actuellement en préparation, selon le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères. Alexei Klimov précise que ces documents prévoient l'entrée sans visa pour les courts séjours jusqu'à 90 jours uniquement. Il n'a toutefois pas donné de date de mise en place de ces nouvelles mesures, car les négociations avec les partenaires sont à des stades d'avancement différents. Les Russes bénéficient déjà d'un régime d'exemption de visa en Angola, au Mozambique, au Malawi, à Sao Tome et Principe, en Tunisie et au Maroc. Et puis plus à côté de nous, le Rwanda a annoncé des essais cliniques pour développer un vaccin afin de contenir le virus de Marburg. Cette initiative a été confirmée selon plusieurs sources par le vice-ministre de la Santé, Yvan Boutera, ce jeudi. Cette fièvre hémorragique virale similaire au virus Ebola a déjà fait 11 morts depuis le déclenchement de la maladie fin septembre. Les efforts pour développer un vaccin sont cruciaux pour prévenir la propagation de cette maladie dans la région. Afin de limiter tout risque d'accélération des transmissions, le ministère de la Santé surveille de près 410 personnes qui ont été en contact avec des cas suspects.
L'invité.
La problématique de la couverture santé universelle était au centre de la troisième édition du Carrefour international des anesthésistes réanimateurs des urgences qui s'est clôturé il y a plus d'une semaine à Lubumbashi. Pour le coordonnateur de ce Carrefour, les anesthésistes et réanimateurs jouent un rôle important dans la prise en charge des malades, notamment dans le cadre de cette couverture santé universelle. Pour en parler, Dr Foreman Mabala est notre invité. Il s'entretient avec Jean Gandou.
Docteur Foreman Mabala, bonjour.
Bonjour, Jean Ganou.
Quelle est l'importance de l'anesthésie et de la réanimation dans la prise en charge des malades?
L'anesthésiste intervient dans plusieurs domaines et n'est là que pour gérer les grandes fonctions vitales en guise d'altération ou de diagnostic. C'est-à-dire que quand nous sommes devant une situation désastreuse dans un hôpital, l'anesthésiste est mieux placé pour trouver une solution en cas d'état de choc, en cas de complications et même, surtout s'il faut réanimer quelqu'un pour lequel le désespoir s'y est déjà établi auprès des autres confrères des domaines dans lesquels nous œuvrons.
Les anesthésistes et les réanimateurs se sont retrouvés dans le cadre de Thierry. Quel rapport y a-t-il entre l'anesthésie, la réanimation et la couverture santé universelle?
La couverture santé universelle prônée il y a peu par les chefs de l'État, c'était une idée géniale. Nous avons déjà rencontré cela dans beaucoup de pays. La venue du ministre Samuel Kamba a boosté les choses et nous avons tous apprécié ce qui s'est passé à Kinshasa. Nous, les anesthésistes, avions déjà parlé de ça l'année passée lors de notre deuxième édition. Cette troisième édition, nous avons juste voulu faire une étude à mi-parcours pour savoir où en sommes-nous arrivés. Et cette fois-ci, nous avons associé les deux ministères, le ministère de la Santé dirigé par Samuel Roger Kamba et le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire par Madame Thérèse Sombre. Nous avons voulu que l'université et le ministère de la Santé se mettent ensemble pour que nous puissions voir comment nous pouvons apporter un plus dans cette couverture santé universelle. Par exemple, il y a eu des femmes qui ont perdu des vies et lors parfois des césariennes, ce sont des interventions que certaines croient banales et routinières, mais ce sont des interventions très délicates. Il a fallu ramener les anesthésistes pour que nous puissions voir les premiers paliers qui intéressent un peu plus la santé de la mère et de l'enfant. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Quels sont les efforts des autres? D'autant plus que la couverture santé universelle tendra maintenant à atteindre les autres provinces qui étaient restées, entre autres la nôtre, et l'université de Lubumbashi, cette fois-là, à travers son recteur, le professeur Kishiba, nous a prêté main forte, nous a donné des experts pour que nous puissions réfléchir là-dessus. Et des recommandations feront en sorte que nous puissions les apporter aux deux ministères, à la première ministre et au chef de l'État.
Parlant des recommandations, quelles sont les principales que nous pouvons connaître?
Maintenir cet élan que nous avons donné à l'anesthésie et réanimation, susciter dans les chefs de Congolais, de personnes œuvrant dans les domaines médicaux, d'embrasser ces domaines et surtout renforcer les capacités de nos frères. Parce que nous le savons, par exemple, au Congo, il y a une carence énorme de personnel œuvrant dans les secteurs d'anesthésie et réanimation. À l'intérieur, il y a des gens qui continuent à soigner. Que devons-nous faire pour que nous puissions les atteindre? Donc nous allons nous constituer en poule pour aller renforcer les capacités de nos frères qui sont situés dans les Bassankoussou, à Otuélé, Kisangani, Ituri, Kamina, partout là, et surtout, nous avons la nette obligation d'apporter un plus dans l'organisation des soins dans notre milieu. Les anesthésistes sont importants et nous devons en avoir au moins un dans chaque grand hôpital et grand site. Et enfin, parmi les recommandations, c'est de travailler en étroite collaboration avec les autorités établies, enfin de donner le meilleur de nous-mêmes et surtout de permettre en sorte que le Congo puisse reprendre sa place qu'elle avait d'antan, celle qui nécessitait à ce que les autres puissent venir bénéficier de son expertise, surtout de ses professionnels de santé.
Au cours de la troisième édition, il y a également un point qui a été placé sur la variole des singes. Quel rapport y a-t-il?
Sur la variole des singes, nous avons juste voulu parler de l'actualité. Parce que le Carrefour ne réunit pas seulement les médecins, ne réunit pas seulement les anesthésistes, c'est tous les domaines possibles et même des personnes qui n'ont pas une implication directe dans l'art d'exercer la médecine. Alors, étant donné que le monkeypox étant d'actualité dans les pays, nous avons voulu d'en faire une conférence un peu spéciale, en fait d'informer la population, parce que chacun essaie de ramasser de façon un peu ubiquitaire tout ce qu'il peut y avoir comme information sur le monkeypox, mais nous avons voulu maintenant prendre un professionnel, un professeur d'université qui est spécialisé dans ce genre de domaine, en fait de nous élucider et que nous puissions avoir une lumière. Et en soit, nous allons constituer des pères éducateurs, aller un peu partout et informer les autres.
Docteur Foreman Labala, je vous remercie.
Merci Jean Gadou.
Fin de cette session d'information sur Radio Okapi FM. Mais sachez que l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes numériques et que ce journal vous a été préparé par Jude Mister Bilanda, Pélékipé Lamondo, Martin Sebujangwe et l'ensemble de toute l'équipe de la rédaction de Radio Okapi. Billy Van Boutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis merci.